passe, Daniel? Ton répondeur a changé. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais changé, alors j'ai écouté les émissions de 2001-2002. Ben oui, ton répondeur a changé. Avant, il était, je dirais, humaniste. Maintenant, il est devenu haineux. Je ne reconnais plus la France, elle est devenue haineuse. On nous a présenté les ennemis, les assistés, la racaille, les fonctionnaires, les clandestins. Et moi, j'aime pas cette France-là. Est-ce que je dois la quitter? Pour aller où? J'ai bien un arrière-grand-père italien. Faudrait que je me renseigne. Bon, ben écoute, bon courage. C'était Annick Dumont.
Oui, Daniel Mermet, je viens d'écouter le répondeur, là, tout de suite, là. C'est vrai, ces gens-là ont raison, bordel. Bon, c'est pas parce qu'ils ont plus de 70 ans, hein. Enfin, tout de même, merde. Où est-ce que t'habites? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu t'habilles? Je suis sûr que ta bagnole est même pas française, salaud! C'est scandaleux! Vive les croix de feu! Moi, du temps de Pétain, bordel, on t'aurait déjà mis au poteau 12 balles dans la peau! Vive Sarkozy! Et l'autre poufias, là, non mais sans blague, où est-ce qu'on va? Ils ont raison, ces gens-là! Ils ont raison! Salaud de communiste, espèce de salaud de pauvre! Et en plus, t'aimes les émigrés! Ah, tu mériterais de mourir égorgé dans un jebel! Je suis désolé, j'ai les nerfs qui lâchent. C'est incroyable, ça! J'espère que là-dedans, il n'y a pas des gens que je connais. Parce que sans déconner, là, vraiment, comme tu dis, décomplexé. C'est hallucinant, ça y est! La droite est passée! Alors, c'est un scandale de laisser parler les autres! C'était vraiment une crapule, mais putain! Et puis tu laisses jamais la parole aux libéralistes. C'est vrai que, tu sais, en fait, en parlant de ça, pourquoi t'invites pas Madeleine? Il y a longtemps qu'on l'a pas entendu, ce gros con. Il pourrait nous expliquer comment tout va bien, et puis qu'on peut licencier, et puis que c'est comme ça, que c'est l'évolution de la nature. Enfin, oh merde, je ne sais pas, moi, c'est vrai. Pense un peu aux vieux, pense un peu. Alors évidemment, il y a un tas de vieilles personnes qui vont appeler en disant « Oui, moi j'ai 90 ans, je suis anarchiste, etc. Je veux pas qu'on me compare à ces vieux cons. » Et ils ont raison, je m'en excuse par avance. Mais j'ai remarqué que souvent, la voix de ces gens, ils ont l'air quand même assez âgés, pour la plupart, ça doit être de bons gros retraités, quoi. Ah là 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 là, c'est vrai, je regrette de pas avoir connu l'époque de Pétain, les privations, les rues tabaga, parce que je penserais comme eux, certainement. Mais bon, enfin voilà, quoi. Enfin écoute, moi je pense que t'es nécessaire, je suis pas toujours d'accord avec toi, mais comme dirait l'autre, je me battrai pour que tu puisses défendre tes idées. Heureusement que t'existes, Daniel, même si parfois, ok, mais quand même, je préfère t'entendre toi que eux. Bon courage à tous, et vive Pétain.
Monsieur Mermet, pourquoi vous ne répondez pas à l'auditrice qui vous demande où vous habitez et qui finance vos voyages? Vous êtes un individu néfaste, monsieur Mermet, malfaisant. J'espère qu'on va vous virer bientôt. Vous êtes vraiment une engeance. Je ne vous salue pas, monsieur.
Voilà, je vous appelle parce que je voudrais mettre fin à cette énigme insupportable qui ne cesse de tourmenter cette bonne citoyenne qui est intervenue sur le répondeur de la base si j'y suis aujourd'hui. Voilà, madame, je peux vous révéler où habite Daniel Mermet, combien il gagne et qui paye ses voyages à travers le monde. Je sais de source sûre où réside cet olibrius qui agite nos ondes herdiennes et les rancœurs de certains. Monsieur Daniel Mermet est un citoyen du monde et c'est moi et quelques millions d'autres qui, avec ma redevance, payons pour qu'il parte, lui et son équipe, à ma place, sur les chemins de la connaissance, afin qu'il m'en rapporte depuis plus de 20 ans maintenant que j'ai le privilège de l'écouter, les beautés, les horreurs, les injustices et les harmonies, les paroles des gens de peu et des grands, les criminels, les justes, bref, les couleurs de la vie. Quant à ce qu'il gagne, en dehors du fait qu'il gagne à être connu, je le soupçonne riche, chère madame, bien plus riche que nous, que vous, en tout cas, sans nul doute, d'une richesse qui, hélas, vous ne pourrez jamais posséder, celle de l'intelligence du cœur et de la tolérance. C'était Sylvie de Grenoble. Je vous embrasse.
Quelle haine dans ces messages d'auditeurs décomplexés, comme vous les appelez si justement, Daniel. Que de rejet des immigrés, etc. Par contre, là où ils n'ont peut-être pas tort, c'est que sans l'immigration, eh ben, on n'aurait pas eu Sarko comme président. Comme quoi, ça tient souvent à peu de choses. En tout cas, merci de tout cœur pour vos émissions. C'était Cédric de Paris.
Perdez pas votre temps à penser tous ces messages merdiques. On entend ça à longueur de journée, que ce soit sur d'autres radios ou dans les histoires de comptoir, mais les conversations de comptoir. Alors, pitié, continuez dans ce que vous faites, changez pas de cap. Puis les mauvais coucheurs, vous en occupez pas. et surtout nous y penser plus. Voilà, bonne journée, à bientôt.
Ah ben oui, mais tout à fait. Nous, aujourd'hui, on était prêts à vous faire une belle émission. Vous savez sur quoi? Sur la sexualité des Françaises.
Intéressant, non?
Voilà, un beau reportage. On aurait appris plein de choses. Comment, combien, avec qui, avec quoi. Et puis voilà, mais surprise, le répondeur de la base, si j'y suis, a été envahi, subverti par des quantités de messages suite à l'émission d'hier et celle d'avant-hier également, au sujet de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui va bientôt ouvrir, non seulement au sujet de cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration, mais au sujet de ce fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale et de la réaction de nombre d'un certain nombre de chercheurs, d'historiens, démographes, etc., qui sont impliqués dans cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration et qui ont démissionné pour protester contre le « et » accolé entre le « et » entre le l'idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'est ça qui leur déplaît, c'est le « et » dans l'émission d'hier et celle d'avant-hier, Gérard Noiriel, l'historien Gérard Noiriel, socio-historien Gérard Noiriel, est venu nous expliquer pourquoi. De très nombreuses réactions, souvent agressives, c'est nouveau, effectivement, dans le répondeur de la base, si j'y suis, j'ai taxé ces messages de décomplexés, et je persiste, et mais il y en a de judicieux, il y en a qui déstabilisent, auxquels il faut savoir répondre, d'autres qui sont... Enfin, vous allez voir, c'est ce qu'on va... vous allez voir et entendre jusqu'à 16h, vos messages, donc, suite à ces deux émissions. On a bien compris que le thème identitaire a remplacé, par les temps qui courent, le thème sécuritaire précédent. Le sécuritaire reviendra, ne nous inquiétons pas, mais là on est dans l'identitaire et vous avez réagi. Exemple.
Texte de Benjamin Stora, docteur en histoire et sociologie, professeur d'histoire du Maghreb contemporain, langues orientales. J'ouvre les guillemets. L'identité nationale est un processus, un mouvement qui ne peut se décréter d'en haut, qui est le produit de nombreux facteurs, à la fois complémentaires et contradictoires. Le politique, les institutions, les langues, la culture, le vécu, les rencontres. Comment, à partir de cette définition, décréter l'identité nationale? Il faut toujours se méfier de définitions qui arrivent d'en haut quand elles concernent des questions aussi explosives que celles des identités. Car les identités sont obligatoirement et heureusement multiples. Elles sont donc confluentes de plusieurs sources, de plusieurs origines. Ce qui fonde une identité nationale, ce sont des histoires, de petites histoires particulières et de grandes histoires. Dans le cas de la France, la Révolution française, la Commune de Paris, le communisme, le socialisme, Vichy, la Résistance, 68, point de suspension. Il y a les grands moments de l'histoire et dans ces grands moments, des engagements particuliers, professionnels, politiques, culturels, personnels, et tout cela fait une nation, un peuple. Je vous invite à lire la suite des écrits de Benjamin Stora. Adichat, passaremos.
So, Daniel, si je comprends bien, les auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous appellent de plus en plus. Est-ce le signe d'un changement de socio-politique en France? Est-ce le signe que maintenant on vous demande peut-être de passer aussi les opinions des auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous ou ce que vous ne faisiez pas avant? Hein, avant il y avait peut-être un tri biaisé sur le répondeur qui était fait. Bon, et donc les auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous donc, ont tort, n'ont rien compris parce que vos chercheurs, comme vous dites... vous disent ce qu'il faut penser, ce que nous devons penser, pour penser bien. Hein? Et donc, oui, je ne sais pas où vous trouvez vos chercheurs, j'aimerais savoir comment vous sélectionnez vos chercheurs. Personne ne vous a demandé d'inviter des gens de différentes tendances dans cette émission, non? Parmi vos maîtres. Vos employeurs, là. Vous avez des copains en haut lieu pour tenir comme ça depuis si longtemps sur France Inter? Qui sont vos amis Haut placé, Mermet. Hein? Il y a des amis dans les médias. Il n'y a pas que Sarkozy qui a des amis dans les médias. Hein, Mermet?
J'ai 19 ans, et pour réagir à ces messages, je vais me contenter de livrer modestement l'opinion émise par mon jeune cerveau, qui fonctionne depuis relativement peu longtemps, et donc encore plutôt inexpérimenté. Je vous prie donc de l'excuser d'avance pour les éventuelles approximations de son petit raisonnement, et pour un certain idéalisme et une foi en l'humanité encore peu ébranlée, pouvant apparaître à certains comme naïve et détachée des réalités. Donc, en ce moment, on parle d'immigration. On dirait qu'il y a des gens qui ont peur que les immigrés viennent leur phagocyter l'identité nationale ou un truc comme ça trop violent. Eh ben, moi, je m'inquiète pas pour mon identité, ma culture française. Parce que c'est marrant, j'ai remarqué un truc en discutant et en fréquentant des gens d'origine et de culture différentes de la mienne. Ben, c'est que la confrontation et la compréhension de l'autre nous aident à nous découvrir nous-mêmes, à mieux nous comprendre, à mieux comprendre nos propres codes et les valeurs de notre culture. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En gros, par contraste, deux cultures et deux identités différentes se mettent mécaniquement l'une et l'autre en valeur, j'ai l'impression en tout cas. Et comme dirait mon prof de relations internationales, les sociétés se sont toujours construites dans une perspective d'altérité fondatrice qui nous identifie et nous oppose. Enfin, moi, ce que j'en dis au final, c'est que sans l'autre, on n'existe pas, donc ce serait bête de s'en priver de l'autre. Et moi, bah, l'immigration, ça me fait pas peur, et même, j'aime bien ça.
Monsieur le Président, je vous fais part de ma grande indignation face aux événements, comprenez ma position. Je suis français et grandi dans les quartiers populaires. Mes grands-parents ont défendu la France pendant la guerre. Mes parents eux aussi l'ont reconstruite cette république. Rappelez-vous ces ouvriers qu'on a fait venir d'Afrique et leurs enfants ignorés par le droit du sol. Citoyens de seconde zone, de la naissance à l'école. J'accuse 30 ans de racisme et d'ignorance. La répression sans prévention en France. J'accuse votre politique, vos méthodes archaïques. La centralisation, la défense unique de la loi du fric. Au lieu de rassembler, car tous français, vous n'avez fait que diviser, laissant l'extrême droite avancer. Monsieur le Président, ne le prenez pas comme une offense. Mais moi aussi je crois en la démocratie de France. Je crois en la République, la vraie, car c'est le rêve du peuple et des opprimés. Colonisation, chômage et précarité ont engendré violence, inégalité. La discrimination à l'embauche, à l'emploi, cela va sans dire. Provoque la fuite des cerveaux, laisse une jeunesse sans avenir. Est-ce un hasard si votre ministre séduit l'extrême droite? Ces gens qui auraient livré la France sans jamais combattre. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être. Monsieur le Président, je vous écris une lettre. Dans les rues, la 6ème République vient de naître. Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
Je me présente à vous pacifiquement.
Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
Ma lettre président.
Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
Peut-être ferez-vous preuve de compréhension.
Monsieur le Président, je vous écris une lettre.
La 6ème République attend votre démission.
Monsieur le Président, vous remercions de votre attention. Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués. Adieu.
Une fois de plus, il y a de la malhonnêteté dans votre émission qui se veut intellectuelle. On ne peut pas comparer les Bougnats, les Bretons du 19e, les Arméniens, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais d'hier et les immigrés actuels sans parler de la religion. Si l'intégration s'était toujours bien faite en France, n'était-ce pas grâce à notre point commun, le christianisme ? Mais dans un pays laïque à outrance, comment oser le dire ? Peut-on laisser la question religieuse sous silence sans risquer de tomber dans un néo-négationnisme ? Question posée par un curé, eh oui, l'abbé Didier Pirodon de la paroisse de Belleville. Je ne le connais pas, mais voilà, cet abbé a envoyé ce mail sur le mail de la base, j'y suis, à daniel.mermet@radiofrance.org. Eh oui, curieux, non, de penser que l'intégration s'est produite uniquement grâce à une sorte d'homogénéité religieuse. C'est faire peu de cas de l'intégration des Juifs, et évidemment, c'est manifester un certain... Peut-être une certaine islamophobie. En tout cas, ces deux émissions, pensaient franchement pas que ça allait déclencher de telles réactions, et j'emploie le mot réaction dans son sens. de réaction de votre part, dans les deux sens, hein, autant d'ailleurs qu'il n'y en ait que deux. Et il y en a, vous allez l'entendre, vous l'avez déjà entendu, plus que deux. Notre boulot, c'est de montrer aux uns comment vivent les autres et de faire entendre aux uns comment pensent les autres sur ce sujet. Mais la nécessité d'une, effectivement, d'une culture là-dessus, d'une histoire de l'immigration et la nécessité de cette cité nationale de l'histoire de l'immigration se fait quand même terriblement sentir, et on voit bien qu'elle a été les idées qui à la base de ce projet. Espérons que nous serons comblés, que cette histoire sera enfin exposée. Depuis le temps que ces historiens ont parlé de Benjamin Stora, effectivement, voilà des hommes qui depuis longtemps, ils ne sont pas les seuls, essayent de nous expliquer ce qu'a été cette histoire. Ça, c'est les scientifiques, bien évidemment, et puis il y a tous ceux qui la vivent et qui l'ont vécu et qui continueront de la vivre, c'est-à-dire nous tous, la preuve.
Bonjour Daniel, ce 6 juin, là, aujourd'hui, je viens d'écouter l'émission et je suis écœurée que des gens puissent t'insulter de la même façon. Alors que toutes les radios, toutes les télévisions, les journalistes sont à plat ventre devant Sarkozy, c'est la seule émission qui donne un peu d'air. Et on voudrait, ils voudraient nous la faire supprimer. Mais moi qui ai 83 ans, j'ai l'impression de revenir en 1940, quand on commençait à faire la chasse aux gens et ainsi de suite. Mais quand on a vécu ça, et on sait ce que ça peut apporter avec cet aventurier, ça fait une peur, hein. Pas pour moi, à mon âge, mais pour mes petits-enfants et pour tous les jeunes. Alors, franchement, ces gens, ils n'ont pas honte, parce que certainement, ils vivent pas avec le SMIC, hein, ces gens-là. Allez, bon courage et continue tes émissions, c'est très, très intéressant. Au revoir.
Bonjour Daniel. Alors, c'est quelqu'un de très inquiet qui t'appelle aujourd'hui. Je suis médecin marocain. Je suis venu en France il y a quelques temps pour poursuivre ma formation. Et je suis venu avec beaucoup d'illusions. Je suis venu à cette France idéale de la liberté et de l'égalité. Et j'ai découvert un pays crispé, renfermé sur lui-même, extrêmement susceptible, y compris au sein d'une classe dite moyenne ou bobo, que j'ai la chance très occasionnellement de côtoyer. Alors, je ne sais pas si je me suis trompé d'époque, mais depuis que j'ai mis les pieds dans ce pays, mes illusions n'ont cessé de s'écrouler. L'histoire, en ce qui me concerne, est malheureusement condamnée de se répéter. Et je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question, sommes-nous dans l'Europe des années 30 ? Si vous remplacez le juif d'alors par l'arabe et le musulman d'aujourd'hui, si vous enlevez les termes médiatiquement ou politiquement incorrects comme franco-français, etc., ben, vous obtenez le discours d'aujourd'hui. C'est très intéressant d'entendre la réaction de certains de tes auditeurs qui, probablement en profitant du caractère anonyme d'un appel téléphonique, vomissent, excuse-moi le terme, leur haine et leur intolérance. Mais c'est quand même extraordinaire, pour reprendre une expression chère à Sarkozy, de constater que la France est l'un des seuls pays au monde, sinon le seul, où les fils et petits-fils d'immigrés continuent à porter le stigmate d'immigrés forcément nuisible, un titre qui est en plus flanqué d'un chiffre, deuxième, troisième, quatrième génération, qui est d'autant plus stigmatisant et humiliant. L'identité nationale, mon Dieu, quelle grossièreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pur, ça veut dire blanc, chrétien, catholique? Jésus-Christ, justement, s'il mettait les pieds en France aujourd'hui, ne l'aurait-on pas reconduit à la frontière, ce juif palestinien de surcroît? J'ai bien peur que la France s'est engagée dans une voie où, loin du fait purement idéologique, va perdre culturellement, économiquement et même historiquement. Merci en tout cas Daniel, c'était Hicham Khalifi, un Marocain à Rouen.
Oui, bonjour Monsieur Mermet, donc je vous contacte puisque je rebondis suite à l'émission qui a été passée aujourd'hui. Donc moi-même, je suis français mais en qualité d'immigré dans un pays étranger, à savoir la Suisse, et je me rends compte au quotidien du poids que peut exercer un peuple qui n'a par rapport à l'étranger. Et malgré que je puisse correspondre en tout par rapport aux citoyens suisses, à la fois dans mon éducation, mais également dans mes critères physiques, ou voire même intellectuels ou religieux, on perçoit que la différence est toujours là et que beaucoup de gens vous la font ressortir en expliquant que vous n'êtes pas suisse, en ayant en vis-à-vis de vous des comportements et des actions qui sont assez primitifs, celui de la méfiance, celui de la moquerie, celui de la bêtise, celui du refus, qui ne voit pas justement dans l'immigration le poids et le et tous les talents, la force, les valeurs que peuvent apporter les migrants par rapport au pays. Et donc, subissant moi-même ce racisme au quotidien qui est diffus, je comprends mieux la réaction de certains immigrants en France, mais également sur l'incapacité pour eux de repartir dans leur pays, dans ce sentiment de piège qu'ils peuvent ressentir. Et donc tout ça, je le vis moi aussi. Et donc j'inviterais ces chers Français qui n'ont pas connu l'immigration de vivre, de rencontrer cette situation pour ensuite pouvoir la commenter en toute intelligence. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un véritable défi humain et qui demande beaucoup de force, de courage, et face à une population qui est parfois vous est hostile, et c'est pas toujours évident, surtout quand on peut pas entrer dans votre pays à cause d'une guerre, une crise économique, une absence de famille, une absence d'éducation. Donc c'est tout ça doit être réfléchi, et l'identité nationale d'immigration doit passer également par la case étrangère, parce que c'est une source de vitalité pour notre pays. Voilà, très bonne journée, au revoir.
Moi, j'aime pas les étrangers. Non, parce que ils viennent manger le pain des Français. Hein? J'aime pas les étrangers, c'est vrai, c'est comme ça, c'est physique. Et c'est curieux, parce que comme profession, je suis douanier. On devrait être aimable et gentil avec les étrangers qui arrivent, mais moi, j'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Et je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Je peux porter, je peux écrire ce que je veux sur des papiers, j'aurai jamais tort. J'ai le bouclier de la loi, puisque je suis douanier. Je peux porter plainte contre n'importe qui, je suis sûr de gagner en justice. Je suis pas un imbécile. Vous voyez, je suis français, moi, ouais, et je suis fier d'être français. Mon nom, moi je m'appelle Koulakiarstensky. Du côté de ma mère. Et Piazzano Venditti. Du côté d'un copain à mon père. Dans le village où j'habite, on a un étranger. On l'appelle pas par son nom, on dit, tiens, v'là l'étranger qui arrive. Sa femme Marie, on dit, v'là l'étrangère. Souvent, je lui dis, Foulka, pourquoi que tu viens manger le pain des Français? Alors, une fois, au café, il m'a pris à part. J'ai pas voulu trinquer avec lui, un étranger. Dis-moi. Je veux pas me mélanger avec n'importe qui, parce que moi, je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Il m'a dit, pourtant, je suis un être humain, comme tous les autres êtres humains. Et évidemment, il est bête alors, celui-ci. J'ai un cœur, une âme, comme tout le monde. Évidemment. Comment se fait-il qu'il puisse dire des bêtises pareilles? Enfin, du haut de ma grandeur, je l'ai quand même écouté, c'est idiot. Il me dit, j'ai un cœur, une âme, est-ce que vous connaissez une race, vous, où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu'une autre race? Nous sommes tous égaux. Là, j'ai rien compris à ce qu'il a voulu. Et pourtant, je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Foulkan, tu viens manger le pain des Français. Alors un jour, il nous a dit, j'en ai ras-le-bol, vous, de vos Français, de votre pain, et pas de votre pain, je m'en vais, va-t'en. Alors il a pris sa femme, ses enfants, il est monté sur un bateau, il a été loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, ben, on mange plus de pain. Dans le... Il était boulanger.
Si vous passez un jour à l'heure de midi vers Mont-Saint-Martin ou Villerue, près d'une des nombreuses cantines italiennes, votre odorat est désagréablement chatouillé par des odeurs d'abominables ratatouilles. Des vieilles sordides à la peau fripée et aux cheveux rares font mijoter des fritures étranges dans des poêles ébréchés. Et les bêtes mortes de maladie à des lieux à la ronde ne sont pas souvent enfuies. Elles ont leur sépulture dans les estomacs des Italiens, qui les trouvent excellentes pour des ragoûts dignes de l'enfer. Toute cette cuisine diabolique passe encore sous le ciel bleu de l'Italie et fait d'ailleurs partie de la couleur locale des quartiers pauvres de Rome ou de Naples. Mais il en est autrement sous le ciel lorrain, où la saleté chronique et la façon de vivre déplorable des Italiens font courir de sérieux dangers de contamination à la population indigène. C'est un article extrait de l'Est républicain en juillet 1905. Il nous montre que racisme et xénophobie font partie intégrante de l'identité nationale française, non? Alors ne soyez plus révoltés par le « et » que nous a mis le gouvernement dans ce nouveau ministère qui a été créé. Voilà, c'était une assistée qui vous a écrit, puisque j'ai reçu un accident il y a à peu près 4 mois. J'en étais victime et je suis actuellement à la maison, donc je n'ai rien d'autre à faire que d'écouter votre émission gauchiste. Mais tout cynisme mis à part, bravo Daniel Mermet pour ce que vous faites, pour la qualité des intervenants, pour la qualité de la réflexion, qui nous donne un petit peu quelque chose de différent de l'air ambiant actuel. Merci et tous mes encouragements. Au revoir.
Salut Daniel, Philippe Gérard à Avignon. Ton émission était une belle escroquerie tout de même, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a les délocalisations, et la délocalisation, c'est exactement le contraire de l'immigration. Ou plutôt, c'est la même chose. Au lieu d'amener l'usine à l'étranger, avec l'immigration, on amenait l'étranger à l'usine, voilà. Donc, je pense que tu es contre les délocalisations, donc je vois pas vraiment ton engouement absolu pour la même chose, c'est-à-dire le fait de faire venir des étrangers afin de les faire travailler dans nos usines, parce que il y a déjà des chômeurs et que il y a des gens qui veulent pas effectivement faire ce boulot-là, voilà. Donc je voudrais dire aussi que quant à la reconstruction, la France ne s'est jamais aussi bien portée qu'avant l'immigration, c'est-à-dire dans les années 30. Hein. Elle avait un niveau beaucoup plus élevé relativement qu'aujourd'hui. Donc là encore, c'était un leurre absolu, puisque maintenant on peut pas dire qu'on soit dans une situation beaucoup plus agréable au plan mondial que ça ne l'était dans les années 30. Et en plus, hélas, je dirais la main-d'œuvre non qualifiée n'a aucune valeur, puisque n'importe qui peut faire le travail, et les guerres sur la planète sont tellement nombreuses que n'importe qui peut faire le travail. Voilà. Donc, quand on recherche de la main d'œuvre non qualifiée, effectivement, on se tourne vers l'immigration, et maintenant, on va encore plus loin, puisqu'on envoie carrément l'usine à l'étranger pour rechercher cette main d'œuvre. Voilà. Donc, ce qui qualifie un pays, c'est sa main d'œuvre qualifiée. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens de dire que les gens qui sont venus pour travailler ici doivent être mis en avant, parce qu'en fait, c'est eux qui ont trouvé un travail en France et qui, du coup, ont pu, je dirais, résoudre leurs problèmes. Voilà.
Aux merdes qui disent que l'immigration n'était pas une nécessité, je pose ces questions. 1. Qui a construit vos maisons? 2. Qui a nettoyé la merde dans vos maisons? Ça a été les étrangers et rien que les étrangers. Donc, je vous encourage de prendre un bon livre d'histoire et d'étudier, d'accord? Voilà, c'est Carla d'Aix-en-Provence. Au revoir.
Oui, un bon livre d'histoire, Carla, ou bien la masse qui suit. Ça va un peu dans le même sens, variété de réactions suite à ces deux émissions avec l'historien Gérard Noiriel sur le thème de l'immigration et de l'identité nationale. Qu'est-ce que l'identité nationale? Qui sommes-nous? De quoi sommes-nous faits? Il arrive en effet que la question se pose de façon très très vive, très crue, très cruelle parfois, pour certains, à certains moments aussi de l'histoire individuelle ou collective. Je me souviens de la révolution de velours à Prague en 1989-10, et le nouveau pouvoir issu de cette révolution dite de velours avait eu l'idée de faire une grande exposition, poser une grande question: qui sommes-nous, où allons-nous? Tout d'un coup, on s'était interrogé sur l'identité et sur l'histoire. Ça s'était imposé, apparu comme une nécessité après ces années d'occupation soviétique. Eh ben, c'est une question qui se pose effectivement de façon permanente, récurrente, et qui se pose aujourd'hui pense toujours que cette question, bien sûr, on a compris que, bon, que c'est une très très longue histoire, que les peuples ont toujours migré et qu'il n'y a pas un moment précis où l'immigration devient excessive. Il y a bien sûr, Noiriel nous l'a expliqué, un moment avec le développement de l'industrie où l'immigration a pu être plus systématique. Mais on peut imaginer ce que serait notre histoire sans cette immigration, qu'elle soit de l'intérieur. Cette dame évoquait la construction de nos maisons. Si l'on songe à Paris, le Paris d'Haussmann, ce sont les immigrés de l'intérieur, les maçons de la Creuse qui ont construit cette ville-là, ce Paris d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que des étrangers, des migrants espagnols, portugais, etc., ont construit la France, ou contribuer à construire la France de l'après-deuxième guerre mondiale. Bref, la question est toujours là, vive et nous tourmente. La preuve.
Eh bien voilà, je suis fort déçu là de l'émission d'aujourd'hui. Ce qui me fait énormément de peine, parce que on dit que les Français sont racistes, qu'ils ont tous été des collabos. Je trouve ça un peu dommage de dire des choses comme ça. La preuve en est, c'est que mon grand-père a passé 5 ans dans les camps, il a été libéré par les Russes, comme des centaines de milliers d'autres soldats français qui se sont battus en 39-40. Ma grand-mère, elle, qui était dans le sud, permettait de passer des gens, des papiers, des messages à travers les Pyrénées. Là, mon autre grand-père est mort en 42, donc en Afrique du Nord, aux côtés des Américains. Je suis attristé d'entendre dire que la France, les Français sont tous à mettre dans le même panier et ont collaboré. Non, je trouve ça un peu moche. Notre ami Amine, là, il faudrait que, justement, il revienne un petit peu sur l'histoire, s'il peut revenir un petit peu sur des livres plus adaptés et mieux informés, surtout. C'est ça qui serait intéressant pour lui, pour son enrichissement, et pas avoir cette haine donc de la France et des Français. C'est dommage, d'ailleurs, pour quelqu'un qui habite la France, de pas l'aimer. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Salut Daniel, je t'appelle de Strasbourg, je m'appelle Manuel, je suis d'origine italienne. Je ne sais pas ce qu'on a avec la France en ce moment, qu'est-ce qu'on a contre les Français. Ils ont le droit d'aimer leur pays, ils ont le droit de pas aimer certains étrangers, je trouve ça totalement d'accord. On dit des fois que, on disait, normalement c'est Romain Gary qui disait le patriotisme c'est l'amour des siens, et le nationalisme c'est la haine des autres. Mais toi, ton patriotisme, c'est l'amour des autres, et ton nationalisme, c'est la haine des tiens. Un jour, tu es là, tu es là-bas, si tu y es. Le jour où tu rentreras, tu n'y seras plus. T'as compris ce que je veux dire? Là-bas, si j'y suis, et le jour où tu seras rentré, tu n'y seras plus. Les cons, les décomplexés, c'est toi qui les a mis au pouvoir. C'est toi qui les a forcés à voter. Cette France pourrie, là, cette France de fachos de gauche, qui ne regarde pas en face la réalité. C'est vous qui avez mis Sarkozy au pouvoir.
Merci à vous, Gérard Noiriel et Daniel Mermet, de nous permettre de changer nos points de vue. Oui, les Polonais, comme mes grands et arrière-grands-parents, et d'ailleurs comme tous mes ancêtres, étaient chanceux d'être blancs et catholiques. Et leur intégration a été tellement facilitée que ma chère grand-mère, en rendant son dernier souffle à 93 ans, n'avait jamais pu, et à force voulu, parler français. Tellement facilitée qu'on a offert à mes grands-oncles un aller simple pour rejoindre leur pays d'origine, lorsqu'en France éclatait la crise économique des années 30. Mais bon, aujourd'hui je suis français, et je le suis jusqu'au bout des idées, surtout celles de Voltaire et de Montesquieu, pour la tolérance et la séparation des pouvoirs, celles de Condorcet, pour permettre à la pensée de se construire du monde une opinion éclairée, et celles de Jaurès, pour la lutte contre l'injustice. Et il me reste de mes origines familiales, plus que la fierté, un nom. Un nom tellement imprononçable que je m'amuse à chaque fois à l'épeler. Plus que la tradition, une espérance chrétienne qui me fait me souvenir que jadis, j'étais un étranger et l'on m'a accueilli. Et qui me fait vous rappeler, à vous, chrétiens bien pensants, qui avez voté Sarkozy et qui ne vous étonnez pas de la politique d'immigration que son gouvernement met en place, ce que Tertullien, père de l'Église du IIIe siècle, disait de nous les chrétiens. Une terre étrangère est pour eux une patrie. Et une patrie leur est une terre étrangère. Ouvrez donc vos cœurs, plutôt qu'un ministère de l'identité nationale. À quand celui de dignité humaine? C'était Jean-Sébastien Boukovietsky. Merci.
J'ai ouvert les yeux sur un meublé triste, rue Monsieur le Prince, au quartier latin, dans un milieu de chanteurs et d'artistes qui avaient à passer. Pas de lendemain, des gens merveilleux un peu fantaisistes qui parlaient le russe. Et puis l'arménien. Si mon père était chanteur d'opérette, nantis de voir que j'en vis encore. Ma mère tenait l'emploi de soubrette, et leur coupe ne roulait pas sous l'or. Et ma sœur et moi étions à la fête, blottis dans un coin, derrière un départ. Tous ces comédiens chargé de famille, mais dont le français était hésitant, devait accepter pour gagner leur vie le premier emploi qui était vacant, conduire un taxi ou tirer l'aiguille, ça pouvait se faire avec un accent. Après le travail, les jours de semaine, ces acteurs frustrés répétaient longtemps, pour le seul plaisir, un soir par quinzaine, de s'offrir l'oubli des soucis d'argent. Et crever de trac en entrant en scène devant un public formé des migrants. Quand les fins de mois étaient difficiles, quand il faisait froid, que le pain manquait, on allait souvent honteux et fébriles au mont de piété où l'on engageait un vieux samovar, des choses futiles, objets du passé auquel on tenait. On parlait de ceux morts près du Bosphore, buvaient à la vie, buvaient aux copains, les femmes pleuraient, et jusqu'aux aurores, les hommes chantaient quelques vieux refrains qui venaient de loin, du fond d'un folklore, où vivaient la mort, l'amour et le vin.
nous avions toujours des amis à table. Le peu qu'on avait, on le partageait. Mes parents disaient, ce serait le diable si demain le ciel ne nous le rendait. Ce n'était pas là un geste charitable, ils aimaient les autres et Dieu nous aidait. Tandis que devant poils et casseroles, mon père cherchait sa situation jour et nuit sous une lampe à pétrole. Ma mère brodait pour grande maison. Et nous, avant que d'aller à l'école, faisions le ménage et les commissions. Ainsi j'ai grandi sans contrainte aucune, me saoulant la nuit, travaillant le jour. Ma vie a connu diverses fortunes. J'ai frôlé la mort, j'ai trouvé l'amour. J'ai eu des enfants qui m'ont vu plus d'une fois. Me souvenir, le cœur un peu lourd. Oui, monsieur le prince, au quartier latin, dans un milieu de chanteurs et d'artistes, qu'avait à passer par le lendemain des gens merveilleux, un peu fantaisistes, qui parlaient le russe. Et puis l'armée.
Rien à dire, bien sûr, après ça, sauf peut-être entendre, écouter la résonance et les échos d'une telle chanson dans la mémoire, dans l'imaginaire, dans le cœur de beaucoup de ceux qui sont à l'écoute. Là, l'identité française, qu'est-ce que c'est? Je vous renvoie un bouquin de Patrick Veil qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un Français ? Une histoire de la nationalité française ». Pourquoi ? Parce que, évidemment, que à gauche comme à droite, et cette émission en témoigne, l'identité française est plus une affaire de croyance que de connaissance, et sujet à des affrontements nombreux, politiques, juridiques, et nous avons à connaître cette histoire aujourd'hui, tant les passions sont toujours là, prêtes à se déchaîner et à être exploitées par d'habiles politiciens. La preuve.
Je souhaite faire connaître aux auditeurs une revue semestrielle qui s'appelle Écart d'identité et qui traite des thématiques de migration, donc que ce soit immigration ou émigration, de l'interculturalité et de l'équité sociale. Donc c'est une revue qui est éditée par une association grenobloise qui s'appelle La Date, et vous pourrez trouver tous les renseignements sur le site www.écart-identité.org. Merci.
Je voudrais vous dire à tous ces gens qui crachent sur les immigrés qu'il va falloir préparer vos enfants à travailler dur dans les abattoirs, dans le bâtiment, ramasser les poubelles, les grosses mains d'œuvre, etc., etc. Allez, courage. Mais rassurez-vous, c'est bien payé. Le SMIC maximum. Allez, au revoir.
Je fais plusieurs fois l'itinéraire du Elphick à Pantra pour aller chercher de l'argile et du matériel qui sont nécessaires à mon activité de potier. Sur cette route, dernièrement, il y avait des feux rouges temporaires pour cause de travaux. et des ouvriers étalés du goudron respirant les vapeurs cancérigènes avec une odeur âcre et très tiède. Donc je refermais ma vitre. Et ces ouvriers, bien, tous étaient d'origine africaine. Seuls les chauffeurs de camions étaient blancs. Et sur cette même route, on peut remarquer que les personnes courbées dans les champs de fraises, d'asperges, de tomates, d'ail, de maïs sont principalement d'origine étrangère. Alors je dis, moi, aux Français pure souche, pure couche, je leur dis ceci. Pas d'immigration, pas de route, vous irez à pied. Pas d'immigration, pas de fruits, pas de légumes frais. Vous dégusterez des conserves. Oh, la liste pourrait être longue, en fait. Jackie de Dieulfi.
Oui, eh ben moi j'appelais simplement pour dire au prétendu sociologue de tout à l'heure, d'ailleurs sociologue, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le prétendu sociologue, que le FLN a quand même tué 6 à 7 fois plus de musulmans que d'Européens pour imposer sa loi. Je lui rappelle qu'à Mélouza et à Wagram, en juin 1957, le FLN a émasculé et égorgé 338 musulmans d'un petit village. Je lui rappelle que le territoire de 2 millions de kilomètres carrés que De Gaulle a abandonné entre les mains d'une poignée de terroristes n'a rien à voir avec ce qui existait en 1830. Je lui rappelle que en ce qui concerne le racisme, je crois que les Arabes sont vraiment mal placés pour parler et pour donner des leçons aux autres. Et le racisme le plus connu, le plus violent, c'est bien le racisme des Arabes à l'égard des Noirs. Bon, et j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est tout. Bonsoir.
Oui, François de Marseille. Alors moi, je suis raciste, profondément raciste, contre tous ces gens qui n'ont pas osé vous téléphoner tant que M. Sarkozy n'était pas là. Et maintenant, comme on dit, il se lâche. Exemple, tel qui est passé en premier aujourd'hui, mercredi. Elle vous a traité de con, elle a parlé de merde, c'est une femme très élégante, et c'est une femme que je ne connais pas, mais que je n'aimerais pas rencontrer dans ma vie. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Odile de Besançon. Autant j'aime les critiques des auditeurs qui n'apprécient pas la manière dont est resté à un sujet, dans la base si j'y suis, autant je suis frappée par le ton haineux des opposants. Ça sent la vieille France franchouillarde, la France de la cuisine au bon beurre. Dieu nous préserve de tout ça. J'ai déjà assisté en ville à quelque chose, une espèce de montée de l'intolérance dans des situations que je n'avais pas rencontrées depuis longtemps. Dieu merci, l'an prochain, c'est mai 2008. Et je vous remercie pour votre émission, elle est formidable, elle permet de voir les situations politiques ou non politiques sous un autre aspect. Un grand merci, je vous aime beaucoup. Odile de Besançon.
Oui, bonjour, Jean-Marie à Saint-Rémy de Provence. Deux ou trois impressions après votre émission sur l'immigration. Là. Une première chose, je suis paysan depuis une trentaine d'années, et si les immigrés n'acceptaient pas de travailler dans l'agriculture, c'est pas avec les Français de souche que nous arriverions à faire notre travail. Donc pour côtoyer des gens de tous horizons, je peux vous dire que finalement il y a beaucoup plus d'humanité chez ces gens-là que chez bien des Français. Autre petite impression, on nous parle de fierté d'être Français, mais en quoi peut-on être fier d'être né quelque part? Est-ce qu'on peut être fier d'être né garçon ou d'être né fille? C'est complètement débile. Est-ce qu'on est pour quelque chose dans notre naissance? Les seuls qui pourraient être fiers d'être Français, c'est ceux qui ont demandé à l'être. Mais ceux qui le sont de naissance, ben c'est des pauvres cons qui sont nés quelque part, voilà. Et comme le rappelait Brassens, quand ils sonnent le tocsin, ils partent à la guerre pour y mourir. Enfin, recherchez la chanson, vous verrez que ça en dit très très long.
Elle s'est perdue dans mes contrées. Une visite m'est offerte. Par mes fenêtres, elle est entrée. Porte du désert entrouverte. excusez-moi de déranger. Je suis venu boire le thé. Du café blanc, plein d'oranger. Peut-être me suis-je invité. Je ne sais rien des oliviers, ni des soupes, ni des narguilés. Volant et citronnier, comme vous je suis exilé. Nous avons tout autant que vous le sens de l'hospitalité. Pour une dame comme vous, il me reste toujours du thé. Et si j'ai cherché quelqu'un d'autre, j'ai trouvé. Mes enfants ont l'âge des vôtres, le cœur n'a plus rien à prouver.
Bonjour, alors comme tous les premiers jeudis de chaque mois, le restaurant La Bonheur ouvre ses portes et vous offre un petit coup à boire et un casse-croûte pour la réunion des amis de la passée J'y suis. Donc jeudi 18h30, autour donc de petits cakes, d'une pizza ou autre chose, on pourra débattre, palabrer un sujet. Ça sera le sujet choisi cette semaine, ce sera le citoyen consommateur ou consommateur citoyen, mais on pourra parler d'autre chose. Vous êtes tous les bienvenus. Alors à demain soir, ou plutôt à ce soir, pardon, 18h30, jeudi, restaurant bar La Bonheur, 65 Alsace-Lorraine. À bientôt. Ciao.
À propos du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Mon père est venu en 1923, réfugié de antifasciste italien. De 1929, naturalisé français. Il est devenu membre du Parti communiste français. Pendant la guerre de 1940, mobilisé dans les troupes françaises contre l'Italie, les fascistes, auparavant il voulait rentrer dans la brigade internationale. À ce moment, il avait déjà deux enfants, donc on lui a refusé de partir dans les brigades en Espagne. Donc après, j'ai été membre des jeunesses communistes. J'ai rompu avec le Parti communiste en 1956-57 à propos de Budapest. Je suis rentré dans les parachutistes français, parachutistes d'infanterie de marine, l'élite de l'élite, comme l'on dit. J'ai fait la guerre d'Algérie, quatre fois décoré. Alors à Monsieur Sarkozy, Benito Sarkozy, je voudrais bien savoir quelle leçon il a à me donner à propos de l'identité nationale. Voilà, c'est terminé. Je te rappellerai, Mermet, je te dis tu parce que tu es un camarade ou tavarich, comme on dit en russe. Eh bien, je te rappellerai. Ciao, à bientôt.
Merci à toutes et à tous pour ces messages. Je rappelle à nouveau le titre du bouquin de Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France, aux éditions Fayard, et le livre de Patrick Veil, avec un W, W-E-I-L, c'est un folio histoire. Qu'est-ce qu'un Français, histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Et puis d'autre part, Charlotte vous signale que samedi 9 juin à 16h, le documentaire The Price of Sugar, le prix du sucre, sera projeté sur le tarmac de la Villette, 2 ans d'enquête sur les conditions d'esclavage dans les plantations de canne en République dominicaine. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Et vous pouvez également la réécouter sur le site La bas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter nombre de numéros de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Eric Mainviel. C'est Koy Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale, grâce à vous, et assisté de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert, lui, il se tient toujours près du répondeur, attendant vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Demain, ben, on espère qu'on parlera enfin de la sexualité des Français. Mais c'est pas sûr du tout. On verra demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Il est 16h sur Inter. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.